Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients ont bougé.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzels.
Oh, bon, merci. Vous pouvez déguster ce que je mange.
Why am cooking so good?
Ah, là, c'est bon.
Oui, il paraît que dans la vie, on ne peut pas faire de généralité. Genre, tous les médecins écrivent mal, ou encore, les gens qui possèdent dans leur salon une lampe à lave ne se brossent pas tous les jours les dents. Mais il y a quand même sur Terre deux ou trois vérités générales, parmi lesquelles, les raviolis, ça tue. Bon, évidemment, il existe plein de raviolis différents sur cette planète. Des momos tibétains au ban kuon vietnamien, en passant par les maultaschen allemands, les raviolis, ça veut un peu tout et rien dire. Mais quand même, le principe d'enfermer une farce dans un morceau de pâte replié sur lui-même, y a pas à dire, c'est un des meilleurs concepts de trucs à manger. Et puis en plus, les raviolis, quand on les achète pas tels quels, ça se mérite. Il faut les faire un par un, ce qui nécessite toujours un peu de temps devant soi. Du coup, des raviolis maison, c'est toujours un travail d'orfèvre. Chaque bouchée est le fruit d'un procédé minutieux, comme la preuve physique que la cuisine, c'est aussi une activité plastique. Je repense par exemple à cette fois où, avec mon copain, on s'est lancé dans la confection de pelmeni, les raviolis originaires de Russie. J'habitais un petit studio à l'époque, avec une cuisine minuscule, sans plan de travail. On s'était donc retrouvés à plier les raviolis sur à peu près chaque surface disponible dans l'appartement. Mon bureau, ma table basse, il y avait de la farine partout. Je repense aussi à cette fois, il y a quelques années, où, pour un repas de nouvel an entre potes à la campagne, j'ai réalisé une centaine de gyoza. Pétrir la pâte, laisser mariner la farce, plier chaque ravioli, ça m'avait pris tellement de temps qu'on est passé à table qu'après un apéro de plusieurs heures. Du coup, avec un bon coup dans le nez, tout le monde s'est rué sur le dîner. Et j'ai le souvenir de cette vision d'horreur, comme déformée par un effet slow motion. Les gyoza être engloutis par des bouches béantes en trois fois moins de temps que ce que j'avais mis à les confectionner individuellement. Moralité, des gyoza surgelés auraient sans doute fait l'affaire. Et deuxième moralité, la prochaine fois, faudrait être à jeun pour savourer ces petits bijoux. En France, on trouve plusieurs variétés régionales de raviolis. Par exemple, la recette niçoise avec une farce composée d'un mélange de daube, autrement dit de la viande de bœuf, avec des blettes. Ou encore la raviole du Dauphiné ou la raviole du Royan, à ne pas confondre avec la ville de Royan sur la côte atlantique. Cette dernière raviole est composée de fromage et de persil. Mais pour cet épisode spécial ravioli, qui ne sera pas le seul que l'on dédiera à ce vaste thème, on a choisi de mettre à l'honneur deux pays étrangers. En deuxième partie, je me suis rendue dans l'un de ces endroits hors du temps dont Paris a parfois le secret, la maison de la culture arménienne. Là-bas, j'ai tendu le micro à Chinar Arakelian, la maîtresse de maison. Tous les jours, cette arménienne née en Géorgie réalise elle-même ses raviolis du Caucase. Chinar traite chacun de ses clients et clientes comme si elle était leur maman. Quand je suis arrivée, elle m'a accueillie avec un gros câlin, auquel j'ai également eu le droit en partant. Cette tendresse et cette générosité est à l'image de sa cuisine.
Si je dis khinkali, il faut manger à ma façon. Et quelle cette façon? Je dis à la main.
Mais avant ça, je suis allée déjeuner chez Pastore, qui veut dire berger en italien, et se trouve d'ailleurs rue Berger à Paris. Là-bas, j'y ai mangé des raviolis d'Alpine, que l'on appelle également agnolotti d'Alpine. Ce sont les raviolis emblématiques du Piémont. Après le dessert, j'ai eu le droit de rejoindre le chef Lorenzo Ciabacca en cuisine pour assister à la confection des raviolis pour le service du soir.
Ça, c'est des raviolis typiques du Piémont.
Oui.
Et ça s'appelle des raviolis d'Alpine parce qu'en fait, c'est des raviolis un peu spéciales comme forme. Ce n'est pas ni ronde ni carré comme on fait aussi au Piémont, en fait. C'est l'agnolotti. Ça, c'est raviolis d'Alpine, c'est Pline en italien, je crois plutôt en piémontais, pas vraiment en italien. C'est le pincement. Mmh. C'est le petit pincement qu'on fait à la pâte.
D'accord.
Qui donne la, comment dire, la forme caractéristique de ces raviolis-là.
D'accord.
Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle raviolis d'Alpine.
Dans le dialecte piémontais, alors ça veut dire
oui,
pincement.
Ouais, ouais. Oui, exactement. On va toucher la pâte, on va fermer. C'est la fermeture des raviolis qu'on fait avec les doigts qui se donne la forme caractéristique raviolis. C'est la pâte qui a, c'est typique du Piémont. La farce, c'est pas vraiment typique dans le sens qu'on change tout le temps. Cette fois-ci, on avait envie de faire des raviolis farcis à l'agneau.
T'es très gourmand. J'en ai mangé ce midi, donc, et j'ai trouvé ça
merci.
Délicieux.
T'es gentil. Et c'est farci à l'agneau, à la ricotta, épinard.
D'accord.
Après, on a une petite garniture qui c'est une tapenade d'olive et une crème à la ricotta infusée à l'origan.
Ah oui, d'accord.
Et... tandis que la farce classique de Ravioli d'Alpine, c'est à l'arrosto, À la rosto, c'est les rôtis des viandes.
Oui.
Donc, on change un peu, on garde un peu la forme, mais après, la garniture à la farce, on la change souvent. Souvent, ça dépend de la saison, ça dépend de l'humeur, ça dépend de ce qu'on aime bien, en fait.
D'accord. C'est quand même un plat de fête ou pas?
Oui. On peut dire que c'est un plat de fête. Mais en fait, même si c'est un plat de fête, c'est un plat... En fait, la tradition de la farce de ravioli, c'est de récupérer de la viande. Par exemple, on a fait un brassato, on a fait un bollito. Un brassato, c'est de la viande braisée longtemps. Ça, c'est un plat de fête. Mais après, avec tout ce qui reste, tout est jeté parce que c'est ça l'origine des ravioli. Donc, la farce, c'est de la viande qu'on récupérait d'une autre préparation. On l'a saisonné beaucoup avec du parmesan, bien sûr, sel, poivre, des épices, des herbes aromatiques. Et on fait ça une farce.
Oui. Et la particularité de ces raviolis du Piémont, c'est aussi, il me semble, que la pâte est riche en œufs.
Oui.
Il y a beaucoup d'œufs dedans.
Oui, oui. Là, la pâte que j'ai fait, en fait, c'est il n'y a que du jaune d'œuf.
Ah oui, c'est pour ça que c'est hyper jaune.
Hyper jaune, il y a une texture différente par rapport à la pâte classique, on dit. En Italie, ravioli, c'est un terme vraiment générique. Après, chaque région, chaque ville, je ne peux pas dire à chaque famille, mais vraiment, il y a 1 million de définitions de ravioli, des pâtes fraîches farcies.
Oui.
En Emilia-Romagne, ils font la recette classique pour la sfoglia. C'est ce qu'on appelle sfoglia. C'est 100 grammes de farine, un œuf entier.
Oui.
Ça, c'est la recette classique. Tandis qu'au Piémont, ils font surtout les tagliarines, que c'est les petites tagliatelles qu'ils mangent avec la truffe, etc. C'est fait, la recette, c'est 1 kg de farine, 40 jaunes d'œufs.
Ah oui.
Donc c'est vraiment riche.
D'accord.
Et là, pour la ravioli de Pline, il y a différentes traditions. Il y a qui fait avec la recette classique, 100 grammes de farine, un œuf entier. Moi ici, je reprends un peu la tradition piémontaise, donc je mets sur 1 kg de farine, c'est 15 jaunes d'œufs.
D'accord.
Donc c'est une pâte vraiment riche, il n'y a pas des blancs d'œufs en fait.
Oui.
Il n'y a que du jaune d'œuf.
Dans le pâton que tu tiens dans la main, là, c'est très très jaune.
Oui.
Ça a l'air d'être assez compact aussi.
Oui, oui. Parce qu'en fait, toute l'humidité qui prend la farine, parce qu'en fait, quand tu fais une pâte, il faut de la farine, il faut du liquide en fait. Et là, toute l'humidité, elle prend du jaune d'œuf. Donc, il y a un peu d'humidité. C'est pour ça que, tandis que dans la pâte qu'on utilise en Émilie-Romagne, il y a les blancs d'œufs, qui à la base, c'est de l'eau.
Oui.
Mais ici, il n'y a pas ni ajouté d'eau, ni ajouté des blancs d'œufs. C'est que du jaune d'œuf. Donc, toute l'humidité, ça vient du jaune d'œuf. C'est pour ça qu'il faut mettre autant de jaune d'œuf.
D'accord.
Qui, ça va donner, il y a un pourcentage d'humidité beaucoup plus bas par rapport à un œuf entier. Donc, il faut surcharger un jaune d'œuf.
Et lors de la cuisson, donc c'est possible de faire des raviolis al dente un petit peu, ou alors justement c'est pas forcément recommandé.
Oui, on peut le faire, mais c'est vraiment un concept des al dente. Je peux dire un peu différent par rapport aux pâtes secs, parce que les pâtes secs, quand on parle des pâtes al dente, on parle de pâtes secs, parce que vraiment il y a une ligne de démarcation entre les pâtes fraîches et les pâtes sèches. On parle des pâtes al dente plutôt pour les pâtes, pour les spaghetti, pour rigatoni, pour les pâtes du sud de l'Italie.
Oui.
Faire les pâtes secs, en fait.
Parce qu'il y a une démarcation, donc, oui, dont tu parles, en Italie.
Oui.
Le nord, c'est plutôt les pâtes de blé tendre,
oui.
Et puis la cuisine au beurre.
Oui.
Tandis que le sud, c'est plus la pâte de blé dur et la cuisine à l'huile d'olive.
Voilà, exactement, c'est ça. Il y a vraiment cette démarcation. Et moi, en plus, je suis sicilien, donc je suis plus au sud de l'Italie possible.
Oui.
Et mais quand même, je fais ce métier, donc il faut aller au-delà de ses propres origines. Donc je fais ça, ça me fait plaisir de faire des pâtes fraîches, des pâtes farcies.
Mais parce que le Piémont, c'est vraiment à l'opposé, là, pour le coup,
oui,
de la Sicile.
Oui, le Piémont, c'est à l'opposé de la Sicile. Et donc la tradition des pâtes fraîches, farcies, c'est vraiment, ça appartient au nord de l'Italie. Mais en fait, il y a les tortellini, il y a cappelletti, il y a cappellacci, il y a... il y a anolini, il y a agnolotti, il y a i casoncelli, il y a vraiment, il faut vraiment un expert en géographie qui puisse nous faire une map des différents types de pâtes farcies qu'on a en Italie. C'est marrant, dans le sens que vraiment, il y a même la même définition que dans différents lieux identifie des pâtes différentes.
Alors tu nous montres un peu ce que tu vas mettre dans la farce de tes raviolis.
Oui. Alors, là, On commence. Ça, c'est de la épaule d'agneau.
Ouais. Donc, un peu déjà, comment dire,
Moi,
en petits morceaux.
Oui. C'est ce que j'aime bien de la farce de la violie, c'est qu'il soit, soit homogène, bien sûr, mais quand même qu'il y a une texture en bouche. Pas trop lisse. Ouais. Pas trop lisse. Et donc, ça, c'est de la peau d'agneau qu'on cuit au. C'est braisé, donc c'est cuit dans. C'est, d'abord, c'est rôti. Et après, c'est. Comment dire? On va déglacer avec du vin et un jus d'agneau.
D'accord.
Et on va cuire au four.
Ça sent super bon alors que c'est sec, c'est pas chaud là. Et
ouais, ouais. Bah, il faut. Si ça sent pas bon, ça signifie qu'il y a un souci là. Donc là, tu vois, même tu vois la couleur, c'est pas marron, c'est un peu. C'est fade, c'est un peu rosé. Donc c'est pas sec la viande.
Ouais.
Ça, déjà, c'est important. Après, on ajoute les épinards.
D'accord, donc ils sont encore en feuilles.
Oui.
Donc, tu mélanges tout dans un faitout avec une spatule.
Oui. Bah, si vous voulez, à la maison, vous pouvez faire dans un robot. C'est pas... Ça dépend du goût. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Il y a pas de... Ça, c'est la chose bien de la cuisine, déjà. Et d'un plat comme ça, familial, dans le sens que chaque famille a sa recette. Donc, chacun se fait plaisir comme elle veut. Puis, on ajoute de la ricotta. L'idéal, c'est de la ricotta de brebis.
D'accord.
C'est un peu plus de goût, un peu plus d'acidité.
Très, très belle, cette ricotta.
Oui.
Donc, tu l'as entière d'un côté. Et là,
oui.
Tu es en train de l'insérer donc, dans ta préparation avec
oui.
une cuillère.
Et après, l'ingrédient, c'est très important, c'est le parmesan.
Oui.
Ça va donner un peu de sapidité. En fait, tu ne sens pas le parmesan quand tu manges. C'est quelque chose qui te fait vraiment la base. Tu donnes un peu de un goût umami, de la profondeur en bouche. Ça, c'est le parmesan.
Ah oui, oui, oui.
Là, on ajoute tout.
C'est intéressant ces ingrédients dont on ne sent pas le goût précisément, mais qui apportent quand même quelque chose.
Oui, oui.
Parfois une texture, d'autres fois c'est juste une tonalité.
Oui. Donc là, après tu mélanges. Après, bien sûr, il faut. J'avais oublié ça. C'est du sel.
Ouais.
Du poivre, toujours des moulins.
Ouais. Pour qu'il garde vraiment toute sa.
Fraîcheur. Et là, on travaille. On travaille la farce. L'idéal, c'est que je prends un utensile, je mets des gants, pour ne pas avoir peur de toucher les ingrédients.
Ah oui, tu mélanges vraiment donc, avec
ouais.
les gants.
Oui.
Du coup, c'est intéressant parce que tu ne passes pas tout au mixeur.
Là, je préfère faire la main. On garde un peu la granulosité de la farce, de la viande.
Oui.
Ça me plaît.
Oui, c'est ça, je le distingue là, sous ta main. Je vois que donc... La viande, c'est vraiment mélangé à la ricotta.
Oui.
Et qu'en même temps, les feuilles des épinards sont encore presque entières.
Bah, il faut goûter.
Ouais.
Il y a presque. Après, c'est ce que j'aime bien. Dès que je viens de Sicile, je mets un peu d'huile.
Ah oui. Est-ce que ça, c'est dans la recette piémontaise? Pas forcément.
Mais mes amis piémontais, peut-être, ils vont... Je sais pas. Ouais. Je crois pas, franchement.
C'est la touche du chef sicilien, ça.
Non, mais c'est pas une touche spéciale. Mais j'aime bien les arômes de l'huile. Dès qu'en fait, ça, c'est une garniture un peu... Comment dire? La ricotta des brebis, c'est typique du sud de l'Italie. Les olives noires, l'origan, c'est... Je voulais faire quelque chose qui allait bien avec la saison aussi.
Ah oui.
Sinon, là, ça s'approche la saison de la courge.
Ouais.
En
ah
Italie,
oui, il y a les raviolis à la courge.
Les raviolis à la courge, c'est vraiment typique de la région de Mantova.
Et c'est juste farci à la courge ou alors il y a aussi de la ricotta?
Non, il y a courge, après il y a amaretto. Donc c'est un raviolo un peu sucré. Je ne peux pas te dire trop de choses parce que là, c'est vraiment une religion, la raviolo à la zucca. Donc,
ouais.
Après, si quelqu'un de Mantova m'écoute, va... Ils vont m'embêter.
Oui.
En fait, c'est un raviolo typique, dans le sens que c'est un raviolo sucré, en fait.
Oui.
Même si c'est un plat principal, c'est un raviolo assez sucré.
D'accord. Et peut-être dans la façon de le présenter, de l'assaisonner, on va le mettre avec d'autres choses. Avec du beurre, d'accord.
Ouais, ça, c'est du beurre et du parmesan.
Oui, d'accord. Donc le parmesan va apporter un peu la touche salée.
Oui.
Mais sinon, ce sera quand même assez sucré.
C'est assez sucré, oui.
D'accord.
Après, encore une fois. En Italie, il y a le souci que quand tu touches... Une recette traditionnelle, c'est toujours dangereux. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas la prétention de faire quelque chose de totalement traditionnel parce que ce n'est pas ma tradition. Donc, je prends une tradition que ça ne m'appartient pas, mais je la retravaille pour faire quelque chose de... On s'amuse, en fait. Il faut s'amuser aussi. Mm. Quand tu prends une recette qui est traditionnelle, comme la ravioli alla zucca, là, il faut aller doucement, parce que... En Italie, on est comme ça. Dès que tu touches une tradition, c'est difficile. Bon, donc ça, c'est notre farce.
Elle est très belle.
Merci. C'est ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre une sac à poche.
Oui. Alors là, tu insères donc toute cette préparation à la spatule dans...
Une sac à poche.
Donc c'est un sachet qui a un bout pointu. Tu mets donc toute la farce à l'intérieur. On a l'impression de remplir un très grand cornet de frites.
Voilà. Ça, c'est une petite roulette. Ça sert à couper la pâte. Ça, ça vient d'Italie. Donc, je coupe une tranche de pâte.
Ouais. Donc là, tu as sorti le pâton de pâte et tu as coupé avec un grand couteau de cuisine une tranche de ce pâton de pâte. On dirait un morceau de polenta.
On la garde à l'abri de l'humidité.
Le reste du pâton, on l'a bien rangé. Et là, tu sors une machine. Donc,
ça, c'est une petite machine. Ça coûte 20 euros, 30 euros, je ne sais pas.
Ouais.
Ça, c'est un petit laminoir, en fait.
Et là, c'est pas très cher, alors. Ça donne envie d'en avoir un aussi chez soi.
Oui, ça, c'est pas cher. Sauf que pour un restaurant, c'est un peu compliqué de travailler avec.
D'accord.
Et donc là, on commence à baisser la pâte. Les
D'accord.
pâtes.
Donc, tu as inséré le morceau de pâte que tu viens de couper
oui.
dans la machine.
Et tu roules.
Et avec cette manivelle, donc, tu aplatis bien le pâton
oui.
de pâte.
Oui.
Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as... disposer la farce sur une grande ligne
oui.
Au-dessus de la pâte.
Oui.
Ensuite, tu as rabattu cette pâte de l'autre côté des petits monticules
oui.
et tu as pincé entre chaque raviolo
oui.
pour pouvoir donc fermer la pâte.
Oui.
Ensuite,
tu fermes la farce dans la pâte avec les pincements. C'est ce qu'on appelle la ravioli de pline.
Est-ce que tu as des souvenirs, Lorenzo, de ravioli, des souvenirs d'enfance?
Oui, oui, oui. On a acheté la ravioli surtout pendant les fêtes. Et je devrais manger la pâte creuse, pas cuite.
Ah oui, c'est vrai.
Pour moi, c'était vraiment mon péché mignon de manger les raviolis creux.
Mais ça, j'ai l'impression que c'est un truc d'enfant. On adore manger les trucs crus. Oui. La préparation des gâteaux au chocolat,
voilà,
on aime bien
exactement.
Manger ça cru.
Voilà, ça, c'est mon souvenir de manger les raviolis creux.
Ouais, on aime bien détourner l'usage des choses quand on est enfant en cuisine. Moi, j'aimais beaucoup, par exemple, manger directement de la poudre chocolatée pour faire des chocolats chauds.
Oui.
Mais la manger comme ça à la cuillère.
Ah, d'accord.
Au lieu de mettre ça dans du lait et mélanger ça, j'aimais bien.
On faisait des gâteaux vraiment cheap. C'était achetés au supermarché dans les cartons. C'était pas un gâteau que tu faisais, c'était un mix des poudres, juste des œufs, des choses comme ça.
Ouais.
Moi, je voulais manger ça cru.
Ouais.
Et là, c'était vraiment pas top top.
Moi, j'aimais bien manger aussi les nouilles instantanées asiatiques, mais crues.
Ah bon?
Oui. Je pense que je suis pas la seule. Bon, déjà, tous mes cousins aimaient faire ça aussi. Mais donc, au lieu de mettre ça dans de l'eau bouillante et de préparer, je mangeais ça comme des chips. Oui, exactement. Ouais.
Ok.
Alors en fait, la cuisson des raviolis, c'est assez simple quand on y réfléchit, puisqu'il faut les plonger dans une
eau
bouillante, salée,
oui.
et attendre qu'ils remontent, c'est ça tout simplement?
Oui, oui, oui. Classiquement, on dit ça. Il faut attendre qu'ils remontent. Après, c'est vrai que si la pâte c'est vraiment fraîche, tu les plonges et ça remonte tout de suite.
Oui.
Mais il y a la farce. Il faut quand même qu'elle soit chaude.
Oui.
Après, c'est vrai que c'est important quand tu fais les raviolis. Bien sûr qu'il les cuire dans l'eau, mais après, c'est ce qui va donner vraiment le plus, c'est la valeur ajoutée, c'est les glacer dans un jus avec du beurre. Par exemple, pour l'instant, on a du jus d'agneau, donc on les glace dans les jus.
Je me suis posé une question ce midi quand j'ai eu mon assiette de ravioli.
Oui.
Est-ce que du coup, c'est bien de couper le raviolo avec un couteau ou alors il faut manger ça en une bouchée?
Voilà.
Il y a plusieurs écoles, j'imagine.
Alors. Moi, je pense qu'à table, chacun fait ce qu'il préfère. Déjà.
Ouais.
C'est ce qui se fait le plaisir. Si tu me dis que tu peux faire avec les couteaux, je te dirais pas, il faut pas faire ça. Mais déjà, tu abordes une question qui ouvre deux questions pour moi. Déjà, les ravioles, il faut que les ravioles d'alpini, j'ai utilisé, il faut qu'elles soient plus petites. Donc là, t'as pas d'excuses. Il faut manger dans un bûche. Autre question. Est-ce que la pâte, il faut utiliser les couteaux ou pas? Moi, je dirais non.
Ouais.
Donc, tu peux les couper, bien évidemment, avec la fourchette. C'est tellement tendre, c'est tellement...
Ah, on peut quand même couper, mais plutôt avec une fourchette.
Ah oui, oui, oui.
Non, mais non, donc, non. Selon toi, on n'est pas obligé de manger ça en une bouchée?
Non, 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 t'es pas obligé, parce qu'on a des raviolis. Ça, après, ça dépend de la bouche. Moi je le mange dans une seule fois, mais après, il y a des raviolis même plus grandes. Donc là, t'es obligé de les couper, de les couper. Mais en général... J'aime pas manger les pâtes avec les couteaux.
Ouais. Et tu trouves que se couper avec une fourchette, c'est différent?
C'est différent d'un point de vue culturel pour moi. Dans le sens que voir les pâtes manger avec un couteau, ça me... J'ai dit que chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas. J'ai dit parce que je dois être un peu poli.
Oui, je vois ça.
Mais
t'as quand même ton opinion.
Ça me donne des frissons, voir manger les pâtes avec un couteau. Ça me donne vraiment des frissons.
En prononçant cette dernière phrase, Lorenzo avait vraiment une moue dégoûtée. J'adore comment il est passé de « Non, non, tout le monde fait bien ce qu'il veut » à « Ah, ça me hérisse le poil !» Quand j'ai arrêté mon enregistreur, on a continué à parler avec Lorenzo de ravioli. Il m'a notamment expliqué que ses raviolis préférés sont ceux dont on distingue bien le goût. Il n'aime pas trop quand tout est mélangé et qu'on ne comprend plus vraiment ce qu'il y a dans la farce. C'est pour ça qu'il aime autant travailler avec de l'agneau, parce que cette viande a une saveur bien caractéristique. Ça m'a beaucoup fait penser à ce que le biophysicien Christophe Lavelle me racontait dans un épisode précédent sur la soupe, quand il disait aimer reconnaître les ingrédients qui la composent. Je pense que Lorenzo aimerait beaucoup les raviolis de Chinar. À la maison de la culture arménienne, elle en sert deux sortes, les pelmeni, petits raviolis à la pâte fine, et les kinkali, les raviolis géorgiens, plus gros et à l'intérieur duquel on trouve un bouillon à aspirer. C'est dans une pièce qui tient plus de la salle de fête que du restaurant que j'ai rejoint Chinar, dans un bâtiment caché au fond d'une cour du 9e arrondissement, invisible depuis la rue. Cet endroit, comme le dit la tenancière, c'est la maison de tous les Arméniens et les Arméniennes, mais aussi celle de tous les gens qui aiment l'Arménie. Chinar s'est excusé plusieurs fois de ne pas bien parler français, mais je l'ai quand même trouvé hyper enjoué et à l'aise, au micro, pour quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle. Pour commencer l'interview, elle a tenu à se présenter en bonne et due forme.
Je m'appelle Chinar, j'ai 58 ans, je suis arménien, je suis née en Géorgie, maintenant 30 ans je vis en France et je garde mon culture, notre plat habituel, qu'est-ce qu'on a mangé chez nous, et je pense que c'est un devoir pour moi aussi, pour montrer ici en France comment on continue aussi notre... culture.
Vous êtes comme une ambassadrice de l'Arménie, en fait, en montrant les bons plats, voilà, à la gastronomie arménienne.
Avec la gastronomie arménie, je montre notre pays, je montre notre culture, je montre notre quotidien, comment on vit. Et pour moi, c'est un devoir aussi, ici en France, dire voilà, on est là et bienvenue chez nous.
Alors, quand je vous parle de ravioli, pour vous, qu'est-ce que ça évoque comme souvenir d'enfance?
Ravioli, je précise, comme je suis arménienne de Géorgie, je grandis avec cette nourriture. Même on est arménien, on mangeait nourriture géorgienne, arménienne, pour la même russe. Ça, c'est une époque, comme on vivait tous un grand pays. Et pour moi, c'est maman, qu'est-ce qu'elle préparait? On était toujours à côté maman, on regardait. C'est vrai, maman, elle était femme de foyer. On était 5 enfants. Pour nous, toujours, maman, qu'est-ce qu'elle préparait, on regardait. Et pour moi, c'est dans la cuisine, qu'est-ce que je fais? Je me souviens chaque son geste, sa goût. Et ravioli, c'est vrai, on a grandi avec un plat comme on mangeait en Géorgie souvent. Ça s'appelle khinkali. Et pilmeni aussi, on mangeait beaucoup. La différence, pâte plus fine, plus petite, c'est pilmeni.
Oui.
Ravioli géorgienne, c'est pâte plus épaisse, plus grand. Et on mangeait à la main. Il y a bouillon de viande. Et cette coutume, ça restait pour nous, ravioli géorgienne. Pourquoi on laissait toujours un petit morceau? On mettait milieu plusieurs, vingtaines, trentaines raviolis. On mangeait, après on comptait. Pour moi, c'est un bon souvenir, mon enfant.
De compter le nombre de raviolis que vous avez mangés.
Oui, mangés.
Comment vous pouviez tenir le compte exactement?
Parce qu'on gardait le ravioli georgienne toujours en fait à la main.
Oui.
Et il y a un petit morceau de pâte toujours où c'est on prenait à la main, c'est avec le doigt. Et comme on mangeait, aspirait le bouillon de viande, et à cette petit morceau de pâte, on gardait, on laissait dans l'assiette.
Ah.
Et moi, doucement, doucement, j'ose dire le jaune. C'est un plat traditionnel, comme on mange à la main. C'est une tradition comme ça.
Oui, ça vous fait bizarre alors de voir des gens manger peut-être avec les fourchettes et les
tout
couteaux.
Tout ça, comme je connais les jaunes, j'approche, je dis. Regarde, toutes les bouillons, il est sorti, c'est vrai. Je dis, tu manges à la main, c'est autre goût.
Oui.
Et c'est vrai, il y en a beaucoup qui disent ça, et qui fait, qui essaye. Et je pense, avec la nourriture, il y a beaucoup de jeunes, ils sont intéressés pour aller en Arménie ou Géorgie.
Oui. Mais moi, je suis allée en Arménie, par exemple. J'ai adoré toute la gastronomie que j'ai découverte. Mais le premier endroit où j'ai mangé de la cuisine arménienne et géorgienne, eh ben, c'était ici, c'était chez vous. Les premières fois, je prenais souvent plutôt des pelmeni.
Ouais.
Donc, c'est les petits raviolis.
Pâte plus fine.
Avec la pâte plus fine. Et j'aime beaucoup, en fait, le fait que dans une assiette, il y en a plein qu'on peut déguster.
Ouais.
Et les pelmeni, en fait, c'est des raviolis que j'aime beaucoup aussi parce que quand j'étais en année Erasmus, j'avais une amie qui s'appelle Magda, d'origine polonaise.
Oui.
Et elle m'a fait découvrir les pierogi, qui sont du coup les raviolis en Pologne. Et
tout
ensuite, j'ai
fait.
Découvert les pelmeni, qui sont des raviolis que l'on mange en Russie aussi, que j'ai retrouvé chez vous.
En Russie, en Pologne, en Tchéquie aussi, il y en a beaucoup qui viennent.
C'est vraiment de toute cette région-là qu'on les trouve.
Plus cette région qui sont différents nombres de plats, c'est la même chose.
Oui. Et puis après, c'est un jour où vous m'avez dit, on est venu ici pour l'anniversaire d'un copain qui fêtait ses 30 ans ici.
Oui.
Et puis, vous nous avez dit, mais vous prenez toujours en fait des pelmeni. Est-ce que vous voulez pas goûter aussi les Khinkali, les plus gros raviolis géorgiens, donc taille XXL quoi. Il y en a moins dans l'assiette, mais ils sont très gros.
Ouais.
Et puis moi, je me disais quand même, j'ai vraiment envie de prendre les pelmeni.
C'est quelque chose d'artistique, d'un ravioli géorgien, moi je
mais
trouve.
Mais oui, c'est très beau. Et après, vous nous avez dit non, mais alors même si vous voulez manger des pelmeni, prenez avec votre voisin et partagez comme ça, vous allez goûter dans les deux assiettes.
Un petit peu pour partager, ça aussi, ça donne mon esprit. Pour être unis, pour être avec nourriture, pour partager, pour donner chacun son avis pour le plat. Est-ce qu'il est beau? Peut-être il y a un référent privilégié quel plat vous aimez. Non. Pour moi, comme les jeunes sont unis entourage de table, il faut partager nourriture aussi.
Et est-ce que dans les pays du Caucase, on partage souvent les assiettes, les plats?
On met toujours milieu table. Et pour nous, c'est une lame entre nous, ça tourne. On mange avec lame.
Oui. Alors, du coup, vous nous avez dit, donc, les Khinkali, comme il y a du bouillon à l'intérieur, c'est important de les manger à la main.
À la main.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord un petit croc et ensuite on laisse couler le bouillon?
On aspire après le bouillon de viande.
D'accord.
Ça donne autre goût, qu'est-ce qu'on mange à la fourchette, c'est pas pareil.
Ouais.
Et pour moi, c'est meilleur client, c'est les enfants surtout. Les enfants, moins de 10 ans, comme ils sont prêts, pilmeni, c'est vrai, ravioli, pâte plus fine, comme on dit, pilmeni. Où ils sont mangent, même parents, ils sont dit, notre, les enfants, ils sont mangent mieux que chez vous, que chez nous. Ça, c'est le meilleur compliment pour moi.
C'est un très, très beau compliment, oui.
Ouais,
c'est une cuisine familiale. On est très contents quand les enfants se régalent.
Les enfants, c'est notre vie. Et pour moi aussi, c'est vraiment une priorité et privilégier les enfants comme les familles, comme ils sont bien avec les enfants.
Ouais. Et puis en plus, comme les enfants parfois peuvent être un peu compliqués, et ben quand on fait des plats qui plaisent aux enfants, en général, ça plaît aussi aux parents. Quoi.
Parents,
c'est un bon test, en fait, le palais d'un enfant.
Oui, ça, c'est vrai.
Et entre, du coup, les deux raviolis, les pelmeni et les Khinkali, vous préférez lesquels, vous?
Moi, je préfère Khinkali.
Ah oui?
Oui, parce que je grandis avec cette nourriture. C'est plus proche pour moi parce que c'est quelque chose, ça tient ma vie. Pilmeni aussi, je mange avec grand plaisir. Non, c'est Rinkali, c'est autre chose pour moi. C'est le pays qui je vis, où je nais, où je grandis. C'est une histoire avec moi, ça vient, c'est Rinkali. Même comme les gens, ils se demandent votre privilégié, je dis, si je dis Rinkali, il faut manger à ma façon. Et quelle cette façon, je dis à la main. Oh là là, non. C'est pas grave, c'est Alama, c'est votre propre maman. J'ai dit comment, techniquement comment il faut manger. Ils en rigolent même, j'utilise le mot technique. Et ils se disent, c'est vrai madame, c'est autre goût comment on mange Alama.
Alors c'est quoi la différence entre les Kinkali et les Pelmeni au niveau de la farce?
C'est bœuf, il y a oignon, sur les Kinkali, il y a beaucoup d'oignons, il y a beaucoup d'herbes, aneth, persil, et il y a bouillon, c'est plus liquide viande. Alors, dans le ravioli, pâte plus fine pilmeni, viande c'est plus sec.
Oui.
Ça veut dire on met...
T'es servi avec de la crème du coup.
Oui, non, on mange à la fin avec la crème,
oui.
Pilmeni. C'est la différence d'intérieur, c'est bouillon. Comme ça donne le différent goût aussi. Sinon, c'est la même bœuf, plus oignon dans le ravioli georgien.
D'accord.
Et il y a bouillon de viande.
D'accord. Donc vraiment, dans tous les cas, il y a du bœuf et il y aura plus d'oignons et de bouillon, ouais. Du coup, dans les gros Kinkali georgiens.
On utilise beaucoup d'herbes, persil, aneth. Toutes les plats, c'est aneth et persil. On met même comme décor, il y en a qui aiment cette odeur d'aneth et persil.
Oui, c'est très, très parfumé quand le plat arrive.
C'est frais, c'est beau pour la santé.
Oui. Oui, j'adore, c'est toujours très réconfortant. Ça vient dans des assiettes creuses comme ça.
Oui.
Il y a le bouillon en dessous qui est encore chaud, les raviolis posés dessus. Il y a la fumée en fait qui laisse dégager beaucoup l'odeur des herbes aromatiques.
Ah.
Et du coup, dans les pelmeni, donc vous avez dit tout à l'heure, la crème, on la mange à la fin? On ne met pas ça dès le début?
On met sur le ravioli.
Ah oui, 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 on met ça sur les raviolis.
Oui, crème fraîche, on met sur le ravioli. Et c'est pâte avec la crème, ça donne un petit peu liquide, parce qu'il y a un petit peu
de bouillon,
et ça donne un petit peu de crème liquide. Et c'est très bon. En général, il y en a qui mangent nature. Chez nous, on mangeait avec la crème fraîche.
D'accord.
Ouais.
Et alors, donc je suis allée en Arménie, à Erevan, pour un reportage il y a quelques mois. Et là-bas, donc, j'ai donc mangé, bien sûr, des Kinkali, bien sûr, ouais. J'ai aussi mangé des pelmeni.
Pelmeni.
Mais j'ai aussi découvert des mantis,
ouais.
Qui sont des petits raviolis, donc originaires des anciennes républiques soviétiques. Et ouais. Là, c'était des petits raviolis, donc farcis à l'agneau, qui se mangent donc avec du matzoun.
Matzoun, c'est yogourt.
Voilà, yaourt fermenté, hein, c'est ça qu'on retrouve surtout en Géorgie.
Ouais.
Et il y avait de l'ail aussi, du sumac, une épice orientale.
Ouais.
C'était très bon, j'ai mangé ça.
C'est fait au four. C'est vrai, au début je faisais, non, maintenant je fais pas parce que on fait plusieurs plats et pour moi c'est parce que c'est ravioli manti comme on dit, c'est petit bateau plus sur la longueur qu'on met petit bateau petit, il faut remplir toutes les plateaux,
oui.
Et on met au four. Je fais pas beaucoup.
Parce que c'est un autre type de cuisson aussi, j'imagine.
Oui, faire 12 choses différentes. Et dernier moment, je fais beaucoup végétarien aussi. Il y a ravioli au fromage. Il y a beaucoup végétariens qui demandent, est-ce que vous dites votre ravioli, faites pour nous aussi. Dernier moment, je commençais à faire un plus plat ravioli au fromage. Dans la tête, on a une idée pour faire ravioli aux épinards, pommes de terre.
Ah oui, d'accord.
Pour ça,
plusieurs variétés alors de
plusieurs
pelmeni.
Variétés,
de...
C'est comme c'est familial. On ne peut pas faire tout en même temps. On fait un, deux bien. Pour pas différemment, on peut un petit peu déborder
oui.
Pour ça.
Donc on retient qu'à la maison de la culture arménienne, c'est surtout des raviolis à l'eau qu'on va pouvoir trouver.
Ouais.
Alors
ouais.
Que les mantis, donc oui, vous avez raison, c'est en forme de petits bateaux.
Petit bateau,
et puis c'est un peu croustillant du coup.
Croustillant, parce que ça cuit en four.
Oui.
C'est pas de l'eau et c'est pas sur la plaque.
D'accord. Et ben c'était très bon aussi, mais c'est vrai que j'ai quand même une grosse préférence pour les raviolis plutôt cuits à l'eau. quand c'est un peu plus mou.
Voilà,
ça,
chacun son goût, comme on dit.
Ouais. Et alors, Chinar, à chaque fois qu'on vient à la maison de la culture arménienne, on se sent vraiment comme à la maison. Parce que déjà, de l'extérieur de la rue, il faut penser à pousser la grosse porte cochère. Ensuite, on se retrouve au fond d'une cour. Il faut aller au fond de la cour pavée. Monter un escalier qui ressemble d'ailleurs beaucoup au couloir de la bibliothèque municipale de quand j'étais petite. Et puis après, on passe la porte et on a l'impression d'être dans un salon, d'être comme chez quelqu'un en fait. Hein. Est-ce que vous pouvez décrire un peu la décoration, les murs
C'est un petit maison, comme on dit, pour toutes les Arméniens et toutes les gens comme ils sont, respectent, ils sont aiment Arméniens. Je ne prends pas comme ce commerce, je prends comme chez moi, les gens ils sont rentrés, il faut accueillir comme on est.
Oui.
Ça veut dire, dans le décor, vous voyez, il y a notre carte arménienne, notre alphabet ancien, évolution alphabet arménien.
Oui.
Là-bas, il y a un don qui a fait don à l'église arménienne. Il y a un petit peu de tapis.
Il y a beaucoup de cadres, hein, oui. Beaucoup de cadres.
Avant, il y en a beaucoup. Non, maintenant, c'est moi Ararat. Pour moi, c'est un symbole. Comme on dit moi Ararat, ça veut dire c'est Arménie.
Ah bah oui, le mont Ararat qui est le mont que l'on voit quand on est à Erevan, en fait.
Ouais, on regarde tous les côtés.
Il est là, il est partout.
Il est derrière nous, il court derrière nous.
Donc pour là, il y a un tableau du mont Ararat qui est juste en face de nous.
Ouais. Et voilà, c'est il y a une lame cette maison, on va dire.
C'est quelque chose.
On tient chaud ici.
Oui.
Moi, je souhaite que les gens, comme ils sont bien ici, il faut sentir comme on est bien. Ils sont bien chez nous.
Je suis très contente d'être assise ici avec vous sur cette table parce que c'est une de mes préférées. En fait, c'est une table ronde qui est au fond de la salle. Donc, elle permet d'observer au loin comme ça tous les gens installés. Et puis, on est juste à côté d'une grande commode où on voit qu'il y a des classeurs qui traînent, des CD. À côté d'un...
Il y a tous les souvenirs
arméniens. De plein de souvenirs, de bibelots, en fait, dans cette grosse commode. En général, il y a un vin aussi que vous proposez pour accompagner les raviolis. Qui est un vin très... cool. Et alors, je l'ai découvert chez vous et après, en allant en Arménie, je me suis rendu compte que c'était presque le vin officiel du pays.
Ouais, c'est meilleur vin arménien, comme je dis toujours. C'est Karas.
Ouais.
Ça existe rouge, blanc et cette année, on a vu des rosés aussi. Et pour ce vin georgien, c'est vrai, il a été toujours meilleur vin époque soviétique. Cognac, c'est arménien. Nous, maintenant, le vin, ils sont vraiment rentrés dans le marché européen. C'est vraiment une bonne présentation. Il y a dégustation toujours, ça se passe. Et le vin Karas, pour nous, c'est meilleur vin arménien.
Puis du coup, quand je suis allée en Arménie, je me suis dit, mais Chinar, elle s'est pas moquée de moi parce que pile à l'aéroport, j'ai vu, c'était une installation, une énorme bouteille de vin Karas, oui.
Ouais.
Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est vraiment le vin officiel.
ça veut dire, Chinar, elle a dit, comme c'est vrai, cette vin, c'est vraiment. Peuple, il a reconnu cette peuple, cette vin, peut-être.
Mais oui, c'est un des premiers trucs qu'on voit.
En sortant de l'aéroport, on voit. Grande bouteille, monstre bouteille, c'est Karas.
Ouais, ouais. Bienvenue en Arménie, quoi.
Bienvenue pour boire.
Et bien sûr, on va pas boire ce vin tout seul. On va aussi, bien sûr, l'accompagner de Kinkali. C'est bien évidemment meilleur.
Merci, c'est vrai. On est pour ça. Si notre ravioli, vous l'a aimé comme c'est un plat préféré, on est ravis. On est pour ça. Bon appétit.
Vous l'aurez compris, si vous allez à la maison de la culture arménienne, faites plaisir à Chinar, mangez vos kinkali avec les doigts et aspirez bien le bouillon qu'il y a à l'intérieur. J'ai hâte que Chinar développe également sa recette de farce végétarienne aux épinards et pommes de terre. Merci à Lorenzo Chabica et Chinar Arakelian de nous avoir donné de leur temps pour parler de ravioli. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes portée par moi, Émilie Listari, montée et mixée par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain!